écoutez Info Club Sandwich.
Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 12 juin et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative préférée. Nous sommes disponibles sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur le site radiocampusamiens.fr. Je suis Saada et je vais animer l'émission aujourd'hui. Au programme, nous écouterons le reportage d'Aurélie, réalisé lors du Forum de la santé mentale et du lien social. Elle y a interrogé des participants, des représentants d'associations, ainsi que des membres du conseil local de la santé mentale et du réseau Jeunesse Itoubi. Et tout de suite, le reportage d'Aurélie.
Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Mais le bien-être mental est encore loin d'être une réalité, surtout chez les jeunes. L'adolescence est une phase de transition à la fois physique, psychologique, sociale et identitaire qui implique beaucoup de changements qui peuvent amener les jeunes à se sentir mal. Selon Santé publique France, plus de 50% des collégiens et lycéens présentent des plaintes psychologiques hebdomadaires, comme des difficultés à s'endormir, la nervosité ou l'irritabilité. 600 000 jeunes présentent des troubles de conduite alimentaire, tels que l'anorexie ou la boulimie. Un adolescent sur quatre fait l'objet d'une suspicion d'un trouble anxieux généralisé. On estime que la scarification ou autres comportements autopunitifs pourraient concerner entre 12 et 35% des jeunes. Et 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque important de dépression. Face à ces chiffres alarmants, il est important que les jeunes aient accès à des espaces pour parler de santé mentale. Ce mercredi se tenait un forum au gymnase d'Étouvi, organisé par le conseil local santé mentale et le réseau jeunesse du quartier. Une quinzaine de partenaires étaient présents et proposaient des activités ludiques pour libérer la parole autour de la santé mentale. Valérie Godet, coordinatrice du conseil local de santé mentale de la ville d'Amiens, nous explique l'objectif de ce forum.
L'idée, c'est vraiment aussi d'agir sur le lien social, puisque c'est un facteur protecteur de la santé mentale de tous. La dernière étude de la Fondation de France montre que le sentiment d'isolement, de solitude augmente, que les troubles psychiques, plus particulièrement chez les jeunes, augmentent également. Donc l'idée, c'était de favoriser effectivement l'interconnaissance, mais aussi d'actionner des actions autour du lien social, parce qu'on sait que c'est efficace et que ça fonctionne en fait. On en parle largement, mais en fait, il faut aussi redéfinir peut-être la question de la santé mentale. On a tendance à la réduire à la psychiatrie ou aux troubles psychiques. Or, la santé mentale, c'est le continuum qui va, certes, du handicap psychique, mais l'autre extrême, c'est la question aussi de l'épanouissement, du bien-être, et avec tous les degrés et nuances entre deux, comme la souffrance, le mal-être, etc. On ne peut pas réduire les enjeux de la santé mentale au seul secteur sanitaire. Chacun aussi, en qualité de citoyen, en qualité de professionnel, de se sentir aussi concerné par ces troubles-là, et du coup de travailler avec nous sur le sujet.
Le forum s'est passé à Itouvi, un quartier où il n'est pas forcément facile pour les habitants de parler de santé mentale.
C'est important parce que je crois qu'il est un peu enclavé en fait, et j'ai le sentiment que les habitants de ce quartier se sentent un petit peu exclus ou en tout cas un peu abandonnés entre guillemets. Et du coup, je trouve que c'était le parti pris aussi de travailler sur la question du lien social et de la santé mentale et de réunir les deux pour justement leur dire que voilà, il y a des acteurs, des professionnels sur le territoire qui sont là aussi pour faire avancer la cause à la mesure de nos moyens.
Une cause qui peut influencer la santé mentale des adolescents sont les réseaux sociaux. Alors qu'ils y sont confrontés de plus en plus jeunes, selon une étude de l'association e-Enfance, 67% des 8-10 ans sont déjà sur les réseaux sociaux. Sébastien, stagiaire en médiation sociale au centre social d'Étouvi, mais en garde sur les différentes pratiques.
Bah, ils les utilisent un peu comme chacun en a envie. Hein. Ça peut être de la recherche, ça peut être utile pour les études, comme ça peut être aussi néfaste avec certains réseaux, si c'est pas aussi contrôlé. Ou... Au niveau santé mentale, ça peut être de l'addiction, ça peut être aussi du harcèlement aussi qui peut venir à cause des réseaux sociaux, comme ça peut être aussi l'accès aux fake news et les mauvaises infos qui peuvent être très néfastes pour notre jeunesse. Quoi.
Maëline, en deuxième année de master en psychologie sociale et également stagiaire au centre social, voit tout de même un aspect positif aux réseaux sociaux.
Je pense que les réseaux sociaux tendent un peu à montrer une autre image du psychologue comme juste un besoin d'avoir une oreille attentive et quelqu'un qui peut nous écouter au quotidien. Moi, je vois un peu la vision des jeunes, notamment au CSC. Bon, certains ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue, mais il y a quand même cette vision un peu plus ouverte du rôle du psychologue.
Lorelai Danzel, infirmière à l'équipe mobile de pédopsychiatrie de l'établissement public de la santé mentale de la Somme, nous parle des différents suivis que propose ce dispositif.
Alors, l'équipe mobile de pédopsychiatrie, elle intervient pour les enfants de 2 à 18 ans dans un but d'évaluation du besoin de soins et d'orientation vers le type de soins approprié. Donc, une mission d'évaluation à l'EPSM de la Somme et une mission aussi de consultation un mercredi après-midi tous les 15 jours à l'espace santé Maurice Ravel, pareil, évaluation, orientation, accueil et écoute des familles. Alors on propose de l'écoute, des entretiens donc individuels à domicile puisqu'on est une équipe mobile, aussi dans nos bureaux, voilà, d'orientation. Nous on appelle ça un petit peu un accompagnement, ça s'apparente à un suivi mais on ne fait pas de suivi dans la durée, on oriente vers le suivi adapté quand il faut passer le relais. C'est gratuit, enfin c'est du service public, c'est l'hôpital, donc c'est l'EPSM. Effectivement, on demande juste les papiers d'identité comme à l'hôpital Sécu Mutuel pour formaliser le dossier administratif, mais il n'y a pas de frais à avancer pour les familles. Et ben, on nous appelle, voilà, l'équipe mobile, donc au 03 22 53 47 91 et on tombe sur notre secrétaire qui expliquera aux familles toutes les modalités pour nous rencontrer et s'il y a besoin, et ben, on prend les demandes directement par téléphone.
Pour elle, il était important d'être présente à ce forum.
On cherche à faire connaître effectivement et à rassurer aussi le soin, à rassurer la prise en charge des enfants et des adolescents et à montrer aux familles qu'on est présent quand même sur le territoire. On sait que les délais d'accès aux soins sont compliqués et donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent et c'est important aussi de faire connaître ces dispositifs qui peuvent permettre aux familles de trouver une réponse plus courte, plus rapide et parfois plus appropriée.
En plus de faire connaître les différents dispositifs mis en place pour parler de santé mentale, pour Julien Leclerc, éducateur spécialisé qui travaille à la maison des adolescents, ce forum permet de créer une complémentarité et une cohérence entre les services.
Parce qu'il y a plein d'acteurs de santé, et du coup, je trouve que ça favorise les liens aussi entre les professionnels et de pouvoir s'orienter. Parfois, les jeunes, ça c'est essentiel pour bien le faire, de bien se connaître. Et puis aussi parce que on est au quartier Touvie et que du coup, les jeunes du quartier, on les voit pas forcément en maison des ados, ou en tout cas, on peut rencontrer des difficultés qu'on a l'habitude de voir avec les jeunes qui sont issus du milieu rural, c'est-à-dire des problèmes en termes de mobilité. Et parfois, la mobilité, elle n'est pas que par les bus, c'est aussi une difficulté plus psychique, c'est-à-dire se rendre sur un dispositif qui est dans la cité, c'est pas forcément évident pour les jeunes qui sont sur un quartier, qui sont habitués à avoir des ressources finalement à l'intérieur même de leur quartier. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'aller vers, quoi, et de faire en sorte qu'on puisse aussi inviter les jeunes à venir nous rencontrer. Donc c'est un dispositif dans lequel on accueille des jeunes qui ont entre 11 et 21 ans. L'idée, c'est que les jeunes peuvent venir pour aborder toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans cette période de la vie, avec la particularité que les maisons des ados sont des lieux où on peut venir sans accord préalable des parents. Voilà, donc ça fait partie des seuls lieux en France où c'est possible avec les centres de santé sexuelle. On peut aussi recevoir les parents seuls qui parfois sont en difficulté avec leur adolescent et qui ont besoin d'être conseillés, voire même aussi des professionnels qui sur des situations parfois peuvent être en difficulté et donc on peut leur proposer des temps d'échange autour de situations d'adolescents. Il faut soit passer directement à la maison des ados, donc on est au 20 boulevard de Belfort, on est en face du cinéma Le Gaumont. Donc un jeune peut passer, on est un lieu d'accueil sans rendez-vous, donc il peut simplement pousser la porte sur les horaires d'ouverture. Et là, il pourra rencontrer un professionnel. Dans l'idéal, c'est mieux de prendre rendez-vous, c'est-à-dire de préalablement d'appeler. Et là, il s'assurera qu'un professionnel prenne une heure de son temps pour l'accueillir correctement et prendre le temps avec lui de voir un peu ce qu'il amène. Voilà. Alors, on propose des temps d'entretien, en fait, qui peuvent être des entretiens individuels, familiaux. Les jeunes peuvent venir aussi accompagnés de la personne de leur choix, donc parfois, ils viennent avec des amis. On propose aussi des temps de groupe, des temps de médiation. Parfois, on joue aussi un rôle de tiers avec les parents, ça arrive souvent. En fait, il faut avoir en tête que 70% des jeunes qui viennent en maison des ados viennent accompagner des parents. Ça veut dire que la majeure partie du temps, aussi, on sert aussi à faire un peu le tiers, voire le médiateur dans la relation entre les parents et l'adolescent. Pour les plus grands, les jeunes viennent plutôt seuls à la maison des ados et un des enjeux, c'est souvent aussi de parfois associer les parents quand c'est pas forcément leur première demande, mais c'est comment aussi on sensibilise les parents à ce qui se passe pour leur adolescent. Voilà. Parfois, ils peuvent avoir l'impression que les parents ne peuvent pas du tout comprendre ce qui se passe pour eux et on a aussi tout ce travail parfois de trouver des ressources en dehors de la maison des ados. Qu'est-ce qui peut être soutien pour eux? Alors parfois, c'est les parents, parfois ça ne l'est pas. Mais en tout cas, notre rôle, c'est ça, c'est de pouvoir voir avec eux quels sont les leviers, quels sont les tuteurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour continuer à grandir le plus sereinement possible. On reçoit jusqu'à 21 ans en maison des ados. Et on est assez surpris finalement de voir la quantité de jeunes adultes qui viennent, je pense aux 17-21 ans, et finalement qui ont assez peu d'espace. Aujourd'hui, il y a beaucoup de saturation parce que, alors autant on parle de plus en plus de santé mentale, mais si on questionne les jeunes sur les ressources qu'ils peuvent trouver, finalement elles ne sont pas si importantes que ça. Un, parce que voilà, si on pense aux dispositifs tels que les CMP, en fait ils saturent, enfin, en termes de demande, et les délais sont hyper importants. Et parfois on a des ados qui arrivent en maison des ados justement parce qu'il n'y a pas de réponse de soins ailleurs. Pour en revenir aux jeunes adultes, oui, je pense que c'est un carrefour de la vie qui est important aussi. Enfin, il me semble que quand ils viennent en maison des ados, ce dont moi je m'aperçois, c'est que souvent il y a besoin de clôturer le chapitre de l'adolescence pour pouvoir s'adonner à une vie d'adulte. Mais ça veut dire avoir un regard rétrospectif. On est censé être un lieu d'accueil et d'orientation, donc on est censé orienté vers l'extérieur. La difficulté, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui saturent et que du coup, l'orientation elle devient compliquée. Du coup, dans la réalité, en fait, en maison des ados, on oriente assez peu de jeunes. Ça veut dire qu'on va aller prendre en charge sur place. Voilà, le nombre de passages moyens d'un adolescent en maison des ados, c'est 4, quelque chose. On est entre 4 et 5. Alors, il y a des jeunes qui vont venir qu'une fois parce que ça, voilà, potentiellement, ça va pas leur convenir ou que ça va être trop compliqué pour eux de se saisir d'un dispositif comme celui-ci. Et puis on a des jeunes qu'on va voir 20 fois ou 30 fois, enfin voilà, mais je trouve que 4 c'est quand même assez représentatif dans le sens où les jeunes viennent chercher vraiment un soutien dans un moment qui est compliqué. Moi je compare souvent ça à un levier, c'est-à-dire ils vivent un temps de crise et du coup ils viennent chercher quelque chose qui va les aider à sortir la tête de l'eau. Ça veut pas dire qu'ils sont prêts à aller plus loin, mais en tout cas voilà, ça va leur permettre peut-être de passer à l'étape d'après et de continuer à avancer. On peut voir que depuis les années Covid, finalement la santé mentale des adolescents elle est de plus en plus difficile et complexe. Si on en suit les passages aux urgences, le nombre de passage sur les lieux qui accompagnent la santé mentale. D'ailleurs, là, on est sur un pic hein, de notre activité. À partir du mois d'avril, là, jusqu'au mois de juin, c'est vraiment un moment où on est censé, normalement, en maison des ados, proposer du sans-rendez-vous. C'est difficile pour nous aujourd'hui parce que, justement, on a une activité importante. Le décrochage scolaire, ça fait partie là, des thématiques qui sont quand même redondantes, en tout cas qui marquent cette dernière année. Ça fait partie des situations qu'on a eu beaucoup à rencontrer et aussi à accompagner. On voit aussi beaucoup de jeunes qui arrivent avec en fait, des difficultés dans la sphère familiale et aussi pas mal de jeunes qui finalement amènent aussi les difficultés rencontrées par les parents. Alors, ça peut peut-être paraître paradoxal, mais on se rend compte que finalement, beaucoup d'ados finalement transcrivent quelque chose de leur vécu à la maison qui n'est pas évident, parce que les parents eux-mêmes sont dans des difficultés importantes et individuelles, et que ça a des répercussions sur la vie des adolescents. Quand j'ai commencé à travailler en maison des ados, parfois on pouvait avoir des jeunes qui disaient parler à un psy, je suis pas fou et j'ai pas besoin d'y aller. C'est plus en marge en fait d'entendre ça, et du coup je pense qu'on est plus dans une dynamique où les jeunes se racontent plus. Après, ce qui est important, c'est de leur proposer du temps pour ça. C'est-à-dire au fond, on peut se questionner sur quels sont les espaces pour que les jeunes puissent parler d'eux-mêmes. Il y en a assez peu finalement, c'est-à-dire quand on observe les familles, on est toujours pris dans le rythme, dans le quotidien, dans un certain nombre de choses qui font qu'on a peu de temps finalement pour se poser et se dire, parler des choses qui sont sensibles. Dans un lycée, dans un collège, c'est pareil, il y a assez peu d'espace finalement, il y a peu de temps. Quand on questionne les jeunes sur le temps d'infirmière ou le temps de psycho, finalement c'est très faible par rapport à la quantité et la proportion d'élèves. On se rend compte en maison des ados que quand on propose un rendez-vous d'une heure à un jeune, on est toujours surpris par la capacité qu'ont les jeunes à se raconter. Et finalement, je pense que c'est ça aussi. C'est est-ce que nous, on est suffisamment réactifs ou est-ce qu'on propose suffisamment d'espace pour que les jeunes puissent raconter ce qui leur arrive, ce qui se passe pour eux. Mais quand on leur propose, ils se prêtent assez bien en jeu finalement.
Ce qui peut freiner les jeunes à se confier, ça peut être le fait d'en parler à un adulte. Audrey a 22 ans, il nous explique son rôle en tant qu'ambassadrice santé mentale à Unicité.
Ambassadeur et ambassadrice en santé mentale, c'est une mission qui sert à sensibiliser les jeunes âgés de 16 à 25 ans aux enjeux de santé mentale en passant par des ateliers plutôt pédagoludiques pour qu'il y ait vraiment un lien horizontal, on est sur du pair à pair. On est mobilisable dans toute la Somme, on est deux équipes, on se partage la Somme en deux, il y a la Somme plutôt côté du coup de l'ouest de la Somme et plus, de l'autre du côté de l'est et du coup on va dans les milieux ruraux, mais on intervient aussi oui, sur Amiens et majoritairement du coup dans des structures sociales où en tout cas on va à la rencontre de jeunes ayant fait face à des freins socio-professionnels. On intervient en mission familiale rurale, on intervient en CFA qui sont les centres de formation et d'apprentis je crois. On intervient à l'école de la seconde chance à Étouvy, on intervient dans les micro-lycées. Cette année on a 103 interventions qui ont été faites chez le département côté ouest et 107 missions qui ont été faites chez le département côté est. Et du coup ça fait à peu près 200 210, c'est ça. Okay. On a eu un SkyJo qui traite des symptômes de certaines pathologies mentales. Et on a eu un jeu des 7 familles qui permettait de rediriger les jeunes vers les structures qui sont adaptées selon les thématiques de santé mentale qu'ils présentent. On a fait un jeu de loi des émotions pour qu'ils apprennent un peu à cibler leurs émotions, en parler et savoir tout ce qu'ils ressentent. On a aussi fait des débats mouvants. Enfin, ça varie vraiment d'une promo à une autre. On a aussi pas mal de retours de jeunes qui nous disent que le fait que ce soit des jeunes qui parlent à des jeunes, c'est beaucoup plus avenant que quand c'est des professionnels ou des adultes qui leur en parlent. Et donc du coup, on est plutôt un gros sentiment d'utilité et qui a l'air de bien fonctionner en tout cas.
Lola et Laglé sont venus avec leur classe de l'école de la deuxième chance qui aide les jeunes qui ont arrêté l'école. Ce forum leur permet d'en découvrir un peu plus sur la santé mentale.
On a fait par exemple un stand avec un casque virtuel. Dans le casque virtuel, il y avait une personne harcelée et on était dans la peau de cette personne. Et on s'est senti vraiment harcelé. Et du coup, on peut comprendre que comment la personne elle se sent si elle est harcelée. C'est pour ça qu'il faut éviter cela. Moi, oui, j'ai l'habitude de parler de la santé mentale avec des amis ou de la famille. Et c'est important d'en parler à des proches si vous n'allez pas bien.
J'arrive à en parler souvent avec des copines à moi proches. Quand je me sens pas bien ou quand des fois elles non plus ne se sentent pas bien, on essaie de s'échanger. En fait, j'ai quand même une personne à qui je peux me confier facilement. Ce qui est bien là, sur le moment, c'est qu'on découvre des choses et on échange avec certaines personnes pour apprendre d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui est important en soi. Déjà, par rapport à l'harcèlement, c'est que si on voit quelqu'un en situation d'harcèlement, on ne doit pas rester à rien faire. On doit quand même se mettre à l'action ou essayer d'aider la personne en face. Et là, par exemple, pour la santé mentale, j'ai une carte dans ma main, ça parle... On devait choisir des cartes et là, c'est la carte rouge, je n'arrive pas à me concentrer et on devait dire comment tu fais pour changer tes idées ou quand tu n'arrives pas à te concentrer, tout ça, etc. C'est soit je fais une activité ou moi, personnellement, je mange pour après, du coup, revenir sur le sujet et tout, pour mieux me concentrer.
Ce qu'il faut retenir de ce forum, c'est qu'il existe plusieurs structures pour parler de ses problèmes ou de son mal-être. Il est possible de s'adresser à différents interlocuteurs, des professionnels de santé, des jeunes, des adultes ou encore des numéros anonymes. Il est également possible de consulter un psychologue via le dispositif Mon Soutien Psy avec un remboursement de 12 séances par an et par personne.
Happy house.
continue. Vous êtes sur Radio Campus Amiens, excusez-moi. Vous venez d'écouter Happy House de Sioxys and the Benchies. On continue avec les actualités du jour. Côté musique, le festival Minuit avant la nuit continue de faire vibrer Amiens. Samedi 13 juin, plusieurs artistes se succéderont dans la scène du Parc Saint-Pierre, parmi lesquels Chilassine, Vladimir Cauchemar, Last Train ou encore Bertrand Belin. Des balades musicales dans les Ortillonnages sont également proposées tout au long de la journée. Les billets sont à partir de 17 € pour les moins de 12 ans et jusqu'à 40 € pour les tarifs classiques. Pour les curieux de nouvelles technologies, rendez-vous samedi à la Maison de la Culture pour une journée dédiée à l'intelligence artificielle. Ateliers, démonstrations et échanges permettront au public de découvrir les applications concrètes de l'IA dans les domaines de la création, de la culture et du numérique. Il y a également le rendez-vous de la bande dessinée à découvrir ce week-end, la Hutte Dessinée, une exposition qui met en lumière le travail des étudiants en bande dessinée de l'Université de Picardie Jules Verne, l'occasion de découvrir les talents de demain à travers des planches, illustrations et projets originaux présentés dans le cadre de la 30e édition du festival. Je vous laisse avec l'interview de Colline sur la Hutte Dessinée.
Du coup, la Hutte Dessinée, c'est une association pour les étudiants, par les étudiants, composée du coup des étudiants en métier de la, en licence et en master métier de la bande dessinée à Amiens, à l'UFR des Arts. Et notre but principal avec cette association, c'est réellement de donner une visibilité aux futurs auteurs et artistes, parce qu'on trouve que le milieu de la BD, c'est un endroit vachement fermé et c'est super dur d'avoir une place, tout simplement. Du coup, notre but, c'est de donner un maximum de visibilité, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec les intervenants et tout simplement notre présence au RDVBD.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites en action concrète à la Hutte Dessinée pour donner de la visibilité et aider ces jeunes auteurs autrices?
Alors, dans le contexte des cours, on a plusieurs intervenants, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, qui viennent nous donner des cours et généralement, eux-mêmes nous donnent leurs contacts ou alors les contacts de leurs éditeurs. Ça nous permet déjà d'avoir un petit nom. Peut-être que quelqu'un peut glisser notre projet qu'on a en tête auprès de leurs éditeurs. Mais l'action première qu'on réalise, c'est un fanzine. Enfin, désormais, on pourrait même l'appeler un livre collaboratif. Un livre collaboratif, du coup, qui est réalisé chaque année par les Master 1. Cette année, par exemple, c'est mon année. Et le but, c'est de choisir un thème. Cette année, par exemple, les contes et folklore. Et de réaliser 8 planches de bande dessinée sur ce conte-là. Enfin, sur ce thème-là, excusez-moi.
Alors, au rendez-vous de la bande dessinée, ça fait plusieurs années que vous venez, que vous y allez, que vous le faites, enfin que l'association est présente. Qu'est-ce que vous proposez cette année?
Bah, du coup, on propose notre fanzine. Du coup, Il était une fois. Incroyable titre. Les fanzines des années précédentes, parce qu'on essaie quand même de mettre en avant les anciens étudiants qui ne font pas forcément partie de la formation, enfin qui ne font plus partie de la formation, mais on vend également des productions personnelles des étudiants. Ça peut être des prints, des stickers, des badges, vraiment de tout. Vraiment, le but, c'est de donner la place aux étudiants avant tout et de montrer le travail.
Et donc, le rendez-vous de la bande dessinée, c'est un partenariat qui dure. Chaque année, comment ça se passe ?
Alors, chaque année, on est invité, du coup, gracieusement par Sophie Milly, que je remercie chaleureusement. On est, dans le contexte des cours, on a un stage qui est la préparation, du coup, de ce festival. Ça permet à la fois de former les étudiants pour, s'ils veulent faire tout ce qui est stand ou alors tenir des festivals de leur côté plus tard. On a un mois entier pendant le mois de mai où on gère tout ce qui est finance, tout ce qui est administratif, tout ce qui est aussi le merch qu'on va vendre sur le stand.
Pour terminer, comment est-ce que vous avez aménagé votre exposition ?
Alors, la façon dont on a aménagé le tipi, du coup, c'est une sorte de petit tipi, un tipi tout simplement. La partie principale, c'est lorsque les voyageurs viennent, on a directement une vue sur le fanzine de l'année, du coup le livre collaboratif de l'année. C'est vraiment la toute première table que vous voyez. Puis ensuite, sur les côtés, en partant de la gauche, on a les fanzines des années précédentes. Comme ça, comme j'ai dit, on les met toujours en avant. Et encore, si on continue à gauche, on a les productions personnelles des étudiants. Par exemple, si vous achetez un truc, si vous achetez du merch, excusez-moi, lors de cette partie-là du Tipeee, tous les revenus iront directement aux étudiants. Et si on reprend de la droite, du coup on a le stand que tout le monde voit avec le fanzine de l'année. Et en partant de la droite, on a les Pierre Papier Chicon, qui sont des livres édités par David Perimoni il y a quelques années. On a eu l'autorisation de les vendre vu qu'il a fait partie de la hutte. Et si on continue encore après à droite, on a les anciens, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne font plus partie de la formation, mais qui sont quand même là pour montrer leur travail et pouvoir se donner tout simplement une petite visibilité.
Et c'est combien d'étudiants et étudiantes représentés par la hutte cette année ?
Alors cette année, on est 39, si je ne me trompe pas. On a 9 L3, on a 13 M1 et on a 16 ou bien 17 M2. Chaque année, ça grandit. À un moment, je pense qu'on n'aura plus de place, mais on fera avec.
C'est un engouement pour la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à trouver votre place dans ce milieu ?
Je pense que c'est une peur qui est un peu présente pour tout le monde. Par exemple, j'ai pu discuter avec des étudiants hier qui ont eu des rendez-vous éditos avec des éditeurs, du coup. Certains sont super contents, ils ont eu de superbes retours, et d'autres un peu moins. Et je pense que vraiment, c'est une peur vraiment qui nous touche un peu tous. Mais c'est pour ça qu'on crée, par exemple, le fanzine indépendamment de tout ce qui est maison d'éditeur. On le fait vraiment de notre côté. Le financement, on va le chercher de notre côté avec le FSDIE et le CRUS. On réalise le maquettage de notre côté. On essaye de faire en sorte de donner une expérience indépendante aux étudiants avant tout. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, et ça, je ne l'espère absolument pas pour nos étudiants, si ça ne fonctionne pas avec un éditeur, ils puissent quand même publier de leur côté. Je peux donner un exemple, par exemple. On a Laurent Doodle sur Instagram qui a beaucoup aimé l'idée du fanzine indépendant et qui a décidé de tout sortir tout simplement de façon indépendante. On a son fanzine qui est vendu à la hutte, par exemple. Il est à 2 éditions là tout de suite et ça fonctionne super bien.
Eh ben merci beaucoup.
Aucun problème.
Pour terminer, à l'occasion des 125 ans de la loi 1901 sur les associations pendant tout le mois de juin, la Confédération nationale des radios associatives lance la campagne « La France qui se bat ». 15 chroniques de portraits d'associations ont été produites par des radios associatives. Aujourd'hui, on écoute la troisième réalisée par Shalom Bourgogne qui a fait le portrait de l'itinéraire singulier. Merci de nous avoir écoutés et on se quittera en musique avec The Other Side de Ruel.
Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire.
Nous sommes au cœur du parc du centre hospitalier de la Chartreuse de Dijon. Nous passons très vite devant la célèbre sculpture Le Puy de Moïse au milieu des visiteurs et nous arrivons à l'hostellerie. C'est le centre d'art singulier géré par l'association Itinéraire Singulier. Nous sommes accueillis par Emmanuel et par Claire. Les murs de l'accueil racontent les origines de la chartreuse de Champol, au temps des moines chartreux. Le deuxième espace, nommé l'escale, est consacré aux expositions d'artistes émergents. L'activité du lieu, avec sa bistroterie, est coordonnée avec l'association Les Embarqués. Pour une partie des bénévoles, cette activité structure leur vie et leur permet de s'inscrire dans un projet collectif au cœur de la vie culturelle dijonnaise. Le troisième espace accueille des rétrospectives d'artistes. Il est dédié à la découverte de l'art singulier, c'est-à-dire brut, naïf, hors norme. Nous vous proposons une présentation d'itinéraires singuliers en compagnie d'Emmanuel Dejeu, responsable notamment des visites guidées.
Voici Pernette Lézine, comment s'appelle, dans son atelier à Paris, donc première chose. Et aussi dans cette pièce-là, merci. Donc on voit bien la danse et le corps en mouvement. Alors, depuis l'an 2000, Itinéraire Singulier place l'art, l'expression dans la lutte contre les exclusions par un projet, que ce soit le festival ou la biennale. En 2026, une année paire, donc c'est la biennale, donc le festival ou la biennale, créatif collectif sur un thème. En le thème de cette année, c'est naissance au pluriel, avec les acteurs du territoire, du milieu culturel, sanitaire, associatif et social. Donc ça, c'est le premier axe de l'association, c'est soit le festival ou la biennale. Depuis 2013, IS est reconnu pôle ressources art, culture, santé, handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un lieu de formation Et le troisième axe de l'association, c'est l'hôtellerie, ancienne hôtellerie de la Chartreuse de Chambol, qui date depuis 1772 par Emmanuel Crétet, mais celui a été inauguré en décembre 2015 pour humaniser l'hôpital et rendre l'art accessible à tous. Celui a été labellisé « Droit des usagers de la santé » en 2020 par le ministère de la Santé et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Donc Itinéraire Singulier et puis l'hôtellerie ont été récompensés et leur prix a été attribué pendant le Covid, en mars et avril 2020. Donc il a fallu que le pays soit déconfiné pour que l'association puisse le récupérer. Donc c'était à Besançon. Et il y a une affiche à l'entrée de l'hôtellerie qui prouve comme quoi l'hôtellerie a bien reçu ce prix. C'est pour les efforts qu'ont fait Itinéraire Singulier et l'hôtellerie pour son accueil, pour les expositions.
Ça s'est venu dans mon parcours. J'ai un BAFA après mon retour au service militaire. Et mon service militaire, je ne l'ai pas fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, il était obligatoire dans les années 90. Quand il était obligatoire, donc moi, je voulais m'en servir en tant qu'expérience professionnelle. Et j'ai voulu faire un service qui m'aide. Et je suis parti donc à Fréjus. Et ensuite, je suis parti en Polynésie française. Et à ce moment-là, durant mon temps libre, et là je vais faire le lien avec Radio Shalom, durant mon temps libre, donc c'est au bout d'un an, pendant un an, j'étais animateur radio à Radio Mururoa. Donc pendant mon temps libre, en tant que bénévole, faut bien le dire. Donc j'étais militaire du lundi au samedi, et le samedi de 18h à 20h, j'animais, donc j'étais animateur radio. En tant que bénévole, la mission d'Europe, c'est des années 50 aux années 90. Et ça, j'y allais tous les samedis soirs. Donc voilà. Et par la suite, j'ai cherché du travail. J'ai passé des diplômes. Et Alain Vincent m'a proposé de faire les visites commentées. Voilà.
Ce lieu atypique remplit formidablement sa mission de rencontre artistique. Entre visiteurs, patients de l'hôpital, amoureux de l'art, curieux, si vous êtes de passage à Dijon, ne manquez pas le Centre d'art singulier de l'hôtellerie dans un cadre magnifique, à proximité du célèbre Puy de Moïse.
La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequi-se-bat.fr.
Wanna know who we are without each other? It's just too hard. I don't wanna leave here without you.